Alors, on est le 10 octobre 2018, on est chez David Dion avec Véronique Goël, Fabrice Copin et Lotivol pour une émission enquête de cinéma que vous pouvez trouver sur dérive.tv et sur Radio Galère 88.4. Dérive a invité Véronique Goël à venir montrer ses films. On en a regardé hier soir, mardi 9 octobre. Il y en aura jeudi, mercredi 10 octobre et jeudi 11 octobre au Vidéodrome 2.
Non,
voilà.
Juste ce soir.
9 et 10.
Ah oui, 9 et 10, pardon. Donc voilà, et on va discuter un peu de films, d'images, de sons, de vie et de politique. Alors, moi, j'aurais commencé par une première question, et puis après, on s'emballera. Véronique, comment est venu ton désir de film ?
Ben, je crois que c'est lié à l'époque, la fin des années 60, début des années 70, 70 où le cinéma était par rapport à la peinture, par exemple, ou à l'art classique en général, était quand même un terrain d'expérimentation très grand. Si on prend tous les cinéastes de cette époque, comme Rivette, comme Godard, comme Pasolini, comme Buñuel, pour ne parler que des gens qu'on voyait dans les cinémas. Hein. Moi, j'ai vu tout. Ben, pour prendre Garrel, par exemple, hein, j'ai évidemment vu les premiers films de Garrel dans un cinéma, entre guillemets, commercial. Donc, d'art et d'essai, mais quand même un cinéma normal. Quoi. Donc, je pense que ça, c'était une très grande... Oui, un très grand dynamisme. Enfin, ça donnait beaucoup d'envie de faire des choses en images en mouvement. Je crois que ça, c'est vraiment le départ des choses.
Hier soir, tu as beaucoup parlé d'expérimentation. Tu viens de le redire encore. Et en même temps, tu disais que à propos des films de hier soir, et notamment du premier... qui ton, semble-t-il, ton deuxième film, d'après ce que j'ai compris. Tu disais que les films parlaient un peu de toi, quand même. Et alors, comment tu fais le lien entre ce désir d'expérimentation qui semble t'avoir nourri tout au départ dans ton cinéma, et le fait qu'il se passe souvent, pour les jeunes cinéastes, l'envie de parler vraiment de quelque chose qui touche l'intime, en fait. Alors, je trouvais que, enfin, ça me questionne le fait que tu parles d'expérimentation pour quelqu'un qui commence dans le cinéma, en fait, et qui souvent a le désir de partir de soi. Donc, c'est comment tu fais le lien entre l'expérimentation et ton envie première de cinéma?
Peut-être que j'étais pas très jeune non plus. Ça veut dire que si on prend les gros qui datent de 79, j'ai 28 ans. Donc quand je fais les Beaux-Arts, j'ai déjà travaillé pendant 8 ans avant de retourner à l'école. Donc il y a peut-être une plus grande maturité aussi, hein, du fait que j'ai peut-être moins besoin de m'exprimer au niveau de l'intime après une expérience de vie qui est déjà importante, si on veut. Donc sans doute ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas dans l'intimité au début de mon travail. C'est aussi une époque. Hier soir, on a parlé de 68 et de la période post-68. L'intime, on s'en foutait complètement, hein. Ça faisait partie de l'extérieur, c'est-à-dire que les choses se vivaient, elles étaient extrêmement aussi dans les relations humaines, hein. Elles étaient souvent très brutales, hein. Je veux dire, il n'y avait pas de cadeau, hein, à ce niveau-là. Fallait assumer ce qu'on était, quoi, mais en même temps aussi pas trop se préoccuper de nos relations, hein. On a vraiment changé beaucoup de choses dans les relations garçon-fille, hein. Pour les femmes, c'était une période aussi très très libératoire, hein, le droit à l'avortement, la pilule, enfin tout plein de choses qui nous ont permis quand même d'avoir une très grande liberté dans nos relations. Mais du coup aussi, enfin, en tout cas moi, moi je me posais pas de questions là-dessus, hein. Je veux dire, on s'engueulait, mais c'était normal. C'était pas du tout la même approche, hein, que par exemple ce que je parlais des enfants maintenant qui ont grandi, hein, qui ont 25-30 ans, qui eux ont une très grande exigence, en tout cas dans nos milieux, une très très grande exigence dans les relations garçon-fille. Oui, les filles, elles laissent rien passer, quoi. Y a pas, c'est, on met les choses sur la table, on avance ensemble, mais toujours dans ce dialogue oui, pour un plus d'égalité, en fait. Nous, je pense qu'on a plutôt considéré qu'on était égaux, mais sans rien faire pour que ça se passe vraiment, cette égalité, quoi. Ça devait aller de soi, ce qui n'a sûrement jamais été de soi, en fait. Donc, ouais, c'est vraiment une période comme ça, une époque comme ça, qui était tournée vers l'extérieur, totalement. Me semble-t-il, si ça donne un peu une idée.
Et du coup, par rapport au cinéma d'aujourd'hui, tu as l'impression que, enfin, sans vouloir dire ce qui était mieux ou ce qui est mieux maintenant ou moins bien, je ne sais pas, quel regard tu as, est-ce que ça fait ping-pong avec la société d'aujourd'hui? Parce que quand je t'entends, je me dis que, est-ce que peut-être on a eu besoin après d'avoir un peu plus d'introspection et de parler de soi. Est-ce qu'on est devenu plus égoïste et donc du coup on parle moins des autres? Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu peux dire de ça en fait par rapport au cinéma dont tu parlais au moment où tu as commencé et celui d'aujourd'hui? Pour les cinéastes, qu'est-ce qui change?
C'est-à-dire, on est retourné. Moi, ce que je pense principalement, c'est qu'on est retourné au commerce. C'est que le cinéma, il est devenu. Bon, je dis toujours, comme j'ai dit hier soir, moi, j'ai jamais pensé que je faisais du cinéma. Je fais des films. Ça veut dire que, au lieu de travailler en peinture ou en sculpture, je travaille en images en mouvement. Je fais des films donc, mais ça n'a rien à voir avec le cinéma pour moi. Ça a à voir justement avec une démarche artistique et qui prend en compte la forme et le fond, quoi. Alors, par rapport au cinéma, oui, le cinéma est devenu très, très régressif. Qu'est-ce qu'on pourrait faire est-ce qu'on pourrait produire aujourd'hui un cinéaste comme Buñuel? Cette liberté de ton, cette imagination folle et débordante, quoi, avec des acteurs, avec des comédiens de très grand renom, qui sont prêts à prendre des risques. Je ne sais pas, ou d'autres cinéastes comme lui, je pense à Ferreri aussi en Italie, je veux dire, La Grande Bouffe, c'est quand même un film. C'est un film exceptionnel, quoi. C'est en même temps du commerce, c'est beaucoup, beaucoup d'argent, hein. C'est vraiment une grosse production. Mais, bon, qui n'a rien à voir avec les films hollywoodiens d'aujourd'hui, hein, où il y a déjà 200 millions, ou je sais pas, 150 millions de publicités par film. Mais quand même, c'était des belles, grosses productions, avec des grands acteurs. Je sais pas qui pourrait produire ça aujourd'hui, hein, si. Moi, je serais très curieuse de connaître qui, en tout cas. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est devenu de nouveau un produit fait pour faire de l'argent, quoi, comme dans les années post-guerre ou même avant Deuxième Guerre mondiale. C'est du business, quoi. Ça rapporte des millions, ça en coûte des millions, des centaines de millions, ça en rapporte des centaines de millions. Et puis, c'est la seule route possible, en fait. Alors, bon, il y a des tentatives au niveau européen, quand même, ou même américain, un tout petit peu plus réflexives, mais ça reste un peu plan-plan, quoi. On rentre, on a un début, tout plein d'aventures au milieu, et puis une fin, hein, qui soit positive, soit négative, enfin, c'est l'envers, mais il y a une espèce de fin, il y a une chute, quoi, la fin, puis on sort, puis on peut aller dormir, puis on recommence le lendemain.
Après, peut-être que Fab, tu voulais aussi parler des films qui sont dans une autre économie, enfin, des films artisanaux, tels qu'on les fait.
Peut-être, oui, parce que c'est vrai que nous, quelque part, on récupère une certaine forme de liberté, que ça parle du monde ou que ça parte de nous. Peut-être notre soit incapacité, soit rejet de se coller à l'économie du cinéma très lourde nous donne une certaine forme de liberté de pouvoir travailler. Et dans le... Sur le site des Rives, on trouve par exemple beaucoup d'auteurs qui travaillent dans ce sens. Mais je voulais revenir sur ta question sur la question du public, par exemple. Quand tu fais tes films, tu dis que tu fais pas du cinéma, j'entends. À quoi tu penses? Est-ce que la question du public est là quand tu travailles, ou c'est vraiment l'expérimentation qui te préoccupe avant tout?
Ouais, je pense quand même que la préoccupation première n'est pas forcément... oui, elle est dans l'expérimentation, mais elle est aussi dans la création, dans la production, dans la création. Faire ces choses-là, comme on fait une peinture, comme on peint... On peint avant de penser au public, en fait. On peint pour exprimer un certain nombre de choses qui semblent essentielles, quoi. Donc je pense que ça, c'est quand même la préoccupation première. Après, bon, entre guillemets, je dirais que moi, je refuse de penser que le public, il est imbécile, quoi. Je pense que le public, il peut travailler, en fait, en allant regarder un film, quoi. Je pense pas du tout qu'il est fainéant, qu'il va pas vouloir, qu'il faut lui mâcher le travail. Et effectivement, il y a quelqu'un qui disait ça hier soir, que que je ne sais plus comment c'était formulé, mais que je demandais beaucoup aux spectateurs.
C'est moi qui l'ai dit.
Ouais. Ah, d'accord.
Que vous nous faites beaucoup travailler.
Bon, ben voilà. Mais moi, je pense que c'est comme ça que c'est comme ça qu'on avance, hein, c'est en travaillant beaucoup. Alors, pas forcément en allant gagner 3000 francs ou 3000 euros ou 4000 euros par mois. Hein. Je ne parle pas de ce travail-là, de ce travail alimentaire qui est incontournable, mais un travail mental, une relation à l'autre qui exige un certain travail, quoi. Une réflexion en tout cas, la capacité à s'ouvrir. Si on lit, je sais pas, autre chose que des romans de gare, je sais pas, si vous lisez Beckett, ça fait travailler. Hein. Mais il y a personne qui considère que c'est pas normal de devoir travailler. Donc je vois pas pourquoi on exigerait des spectateurs de cinéma ou de films. De ne pas travailler. Enfin, pourquoi on considérerait que là, c'est juste de l'entertainment,
divertissement.
Qu'on est dans le divertissement et puis que l'image en mouvement, le cinéma, c'est le divertissement.
Bien sûr, mais c'est tu as tout à fait raison. Mais ma question, c'était vraiment sur la préoccupation au moment déjà où tu tournes ou quand tu montes. Il y a un cinéaste que je lisais il n'y a pas longtemps qui vraiment parlait de ça et qui disait que il avait conscience que le spectateur était là pour combler les trous, en tous les cas. Et donc, du coup, son montage et sa manière de tourner est fait en fonction de ce dialogue-là avec le public. Et c'est vrai qu'on ne l'est pas toujours conscient au moment où on le fait. Et donc, par rapport au fait que tu dans un cinéma plus expérimental, je me demandais à quel endroit tu t'allais chercher justement ce public, peut-être dans ces durées de plan quand tu fais le montage, et à quel moment tu disais tu t'arrêtes. Et je sais pas, dis-moi si ça joue là-dedans ou si c'est juste ton impression à toi, ou est-ce que tu te dis...
Non, il y a toujours quand même, il y a toujours l'autre, hein, parce que finalement, je dis que ce n'est pas la préoccupation principale, mais on ne travaille jamais que pour soi. Ça veut dire que si je n'avais pas eu de public, aucun. C'est-à-dire que si d'emblée, ce film, comme je disais aussi, il a provoqué celui-là, hein, un autre été, il a provoqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions extrêmement négatives au niveau justement des instances de financement, mais si j'avais pas eu un public, même minimum, je pense que j'aurais pas continué. C'était évident qu'il y avait un intérêt de toute une partie du public, c'est-à-dire que les critiques du film, elles ont été d'un côté extrêmement négatives, mais de l'autre extrêmement positives aussi, quoi. Alors évidemment, pas au niveau du divertissement ou populaire, mais quand même...
De l'exigence artistique, etc.
Voilà, exactement. Donc c'est aussi ça qui m'a permis de continuer, c'est d'avoir toute cette énergie, quand même toute une énergie avec moi, derrière mes épaules, et à côté de moi, quoi. Et aussi les gens avec qui je travaillais.
Mais justement, par rapport à ça, moi, j'avais envie de te demander, est-ce que tu as... Je ne sais pas comment formuler, donc je vais essayer d'être clair. Est-ce que, d'entrée de jeu, tu t'es su que tu allais expérimenter des formes très, très radicales? Parce que moi, c'est ça qui m'a surpris dans ton deuxième film, ou premier film. Et puis, c'est que d'entrée de jeu, dès le départ, une posture filmique, un rapport au son, à l'image, très, très radicale, quoi. Et ça m'interroge de comment ça a émergé en toi, comment ça, ou c'était clair, ou cette chose assez forte, quoi.
Oui, mais je pense que c'est là aussi, quand je parlais d'époque, c'est une époque. Tout était dans une forme de radicalité, quoi. Tout était entre guillemets radical, hein. Après, il y a eu beaucoup de déchets aussi, on est bien d'accord, mais disons que c'était une énergie comme ça qui était dans la transformation. Alors, bon, moi, j'expérimente, mais je ne fais pas du cinéma expérimental non plus, hein. Je veux dire, y a dans mon travail, le contenu, il est aussi important que la forme. Et il n'y a jamais... Je pense qu'il n'y a jamais... Bon, il y a quand même une démarche qui dit, qui choisit. Je me dis, voilà, ce film, il sera comme ci, comme ça. Là, je vais tester juste les extrêmes du son, jusqu'où je peux aller, moi, dans le son, quoi, par exemple, ou dans l'image, ou dans le temps. Ça, c'est des choses qui sont posées au préalable. Mais après, s'il n'y a pas, si je ne trouve pas, moi, dans mon travail, une puissance de contenu, de sens, une force du sens, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne fais pas à ce niveau-là du cinéma expérimental. Aussi, ça ne me viendrait jamais à l'idée de scratcher l'image, de la mettre à l'envers. C'est très classique ce que je fais, en fait. C'est vraiment un plan fixe. C'est retourné à Louis Lumière, quoi, si. Et ses premiers films, où tout d'un coup il posait la caméra dans un téléphérique ou dans un télécabine, et puis il y avait un premier travelling, ou bien il prenait le bus ou le train. Enfin, il y avait toutes ces choses-là. Finalement, c'est un peu ça mon travail. C'est pas plus compliqué. Enfin. Oui, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. C'est vraiment retourner à quelque chose d'essentiel, de premier. Comment c'était l'image au début, quoi.
Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que... Ouais, c'est vraiment ce que tu dis, c'est-à-dire revenir à vraiment l'essentiel. C'est-à-dire qu'il y a... Et c'est... J'allais dire, ça me fait penser un peu à Duras sur... India Song, où il y a ces plans qui durent effectivement très longtemps, et en même temps on est à un autre endroit là. Mais c'est parce que finalement tu est-ce qu'il y a j'ai pas vu encore tes autres films, mais est-ce que tu saisis la caméra à des moments
moi
oui. Non, est-ce que la caméra elle est toujours sur pied dans tous tes films?
Oui, c'est ça ma question.
Ouais.
Ouais. Tu poses le dispositif comme ça.
Ouais, quand dans Perfect Life, Steve alors, y filme.
Oui, mais dans Perfect Life, alors ce que je fais peut-être parfois aussi, ça on va le voir dans Perfect. Dans Perfect, j'utilise deux caméramans différents. D'accord. Alors, il y en a un qui est chargé de toute cette composition très précise, hein, très... Alors après ça va changer, hein, je fais des panoramiques, il y a quand même toute une... Je peux utiliser une grue par exemple, j'ai fait ça dans certains films, d'utiliser une demi, voilà, exactement. Donc ça je fais, mais dans Perfect Life, il y a un autre, deuxième caméraman qui lui travaille sur pied, mais avec une liberté complète, c'est-à-dire que moi, je le laisse complètement libre de faire ce qu'il veut, je donne que des indications de gestes. Et ça, c'est Dvoskin, avec qui j'ai travaillé pendant des années, avec qui j'ai vécu pendant des années, avec qui j'ai travaillé pendant des années, et de lui, je prends ça. Je prends cette démesure, enfin cette proximité de l'image. Il fait déjà deux séquences dans Précis.
C'est lesquelles dans Précis?
Ben, c'est les deux gros plans, les deux séquences de gros plans de chaque côté, de gros plans, de très gros plans, hein. On est dans le visage, dans le geste, qui sont de chaque côté de la séquence centrale de douche. Sur le personnage principal, quoi. Précis travaillant différemment, Précis travaillant d'une première séquence très éloignée, en plan très très large, sur la ville, sur des gens qui marchent, et puis on va se rapprocher du personnage central. Dans Précis, il y a vraiment un personnage central qui est entouré par des figures, et on va se rapprocher, 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 jusqu'à jusqu'à être dans le regard presque, hein, complètement. Et puis, on va s'en éloigner. C'est presque une symétrie entre la moitié, qui va jusqu'à la moitié du film, et on va s'en éloigner pour le laisser disparaître au fond du champ. Donc là-dedans, il y a déjà ce changement, ce premier changement de caméraman. Et dans Perfect Life, ça va devenir beaucoup plus important. C'est-à-dire que la partie faite par Dvoskin est une partie complète du film. Enfin, c'est toutes les séquences de bistrot, de café sont filmées ainsi, dans un mouvement perpétuel, continuel.
Et la volonté dans Un autre été d'avoir des plans de même durée, c'est venu d'où ?
Je sais pas, ça c'est des idées. Ça c'est vraiment une mécanique de pensée, quoi. C'est de dire, voilà, formellement ce film-là, je vais tester ça, je vais expérimenter ça, c'est ça qui m'intéresse, quoi. Donc voilà, je le fais, puis une fois que je l'ai fait, j'ai pas besoin de le refaire une deuxième fois. Finalement, j'essaye autre chose. En fait, et chacun de ces trois films a une démarche comme ça, a un squelette préalable au tournage qui est formalisé, qui est posé.
Et c'est intéressant cette histoire de durée quasi similaire, parce qu'elle est, c'est vraiment, bon, c'est des films dans le film en fait, hein, un peu.
Ouais.
On est dans cette même temporalité finalement à chaque fois. On s'attend à re-rentrer dans un autre film après qu'on ait un peu compris que ça provoque un rafraîchissement à chaque fois de se replonger dans une séquence qui est presque un film en soi en fait.
Oui, parce qu'elles sont jamais identiques.
Voilà.
Sauf le personnage qui est couché.
Oui.
Qu'on voit de jour et de nuit,
oui.
Ça, c'est les deux séquences qui se passent dans le même lieu, et il me semble d'ailleurs avec exactement le même cadrage, hein, sauf un cadrage nocturne et un cadrage diurne.
Ce qui est assez beau, c'est que c'est assez ténu en fait, la manière dont tu lis quand même ces différentes séquences, avec des rappels de ces histoires de boîtes, et cette voix qui indique. Quand on le voit pour la première fois, en tous les cas, pouf, ça fait lien, mais
c'est très ténu, les liens. Oui, oui. Ça aussi, c'est presque un travail aussi, pourrait-on dire, hein, du spectateur.
Exactement.
Qui doit, lui, faire cette démarche, hein, pour arriver à saisir la continuité des choses. Bon, plus on avance dans le film, hein, plus ça va devenir clair, mais au début, c'est entre le premier plan séquence avec la mère, hein, avec la mère qui fait le café justement pour cette espèce d'individu qui va sortir de sa douche et grogneux, et le plan suivant où directement il ferme la porte, mais on tombe sur un autre personnage. D'ici qu'on ait compris que ces deux personnages fonctionner ensemble dans le même boulot, ça prend, je pense, hein, que ça prend un peu de temps dans le film.
Ouais, ouais. Et du coup, il y a des surgissements par moments vraiment chouettes, comme par exemple la séquence du jeu de dés, qui est magnifique parce qu'elle est. Il y a vraiment une composition à la fois du décor, à la fois de la lumière. Donc les autres personnes qui sont là sont quasiment floues, plus ou moins. On est vraiment net sur ce qui se passe, et en même temps, ce qui est extrait du son, on est juste que ces dés, eux, sont eux-mêmes dans une espèce de silence. Donc ça crée une espèce de bulle comme ça intérieure qu'on trouve différemment dans les séquences, mais vraiment dans différentes couches. Donc les couches sont pas les mêmes quand même, hein, de rapport entre l'image et le son. À chaque fois, on voit bien que tu vas chercher d'autres terrains, et ce qui nous fait participer en termes d'attention à différentes formes d'attention, justement pour aller chercher et de savoir ce qui se modifie, parce que Je ne sais pas si c'est toi, David, qui disais qu'il y avait dans le son pas de couches, effectivement, mais les couches, pour moi, se situent ailleurs. Elles se situent dans ces présences
Dans le contrepoint
oui.
qui se passe entre les images et le son,
c'est ça,
justement.
C'est
là
ça.
Où ça
tout
se
est
passe,
localisé,
absolument.
En fait, et ce qui donne un champ d'expérience qui se situe à différents endroits. Donc on est absorbé par ça. Et en même temps, ce qui nous montre un décor qu'on va chercher aussi, mais qui nous reste, on a juste l'image pour apprécier l'endroit, tout ce qui reste en fait, ce qui est assez intéressant. Donc on n'est pas pollué par aucun autre son pour aller chercher ce qui se passe dans l'image.
Mais ça fait comme si on avait le temps de voir, quoi.
Oui, c'est ça.
Ça donne vachement beaucoup le temps de voir. Et moi, j'ai eu par exemple la première scène dans la cuisine. Qui est très puissante. Moi, j'ai vraiment le temps de voir. Puis j'avais eu l'impression de, comme c'était la première fois qu'on me donnait à voir des personnes qui prenaient le temps de déjeuner, quoi. Et je l'ai pas trouvé dur, cette scène. De toute façon, je l'ai pas trouvé dur, ce film. Après, j'ai plutôt trouvé beau beaucoup de poésie, même à part les ruptures, quoi. Mais j'avais sur ce que tu disais de pour moi justement dans ce que tu fais, c'est intéressant parce que oui, c'est de l'expérimentation. Pour moi, il n'y a pas de question de documentaire ou de fiction. Moi, je le perçois pas. Et quand tu dis des vues-lumière, ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment pour moi, tu documentes une époque, un moment, et tu le documentes en expérimentant des rapports entre le son et les images, quoi.
Et le sens.
Et le sens, voilà. Le son, les images et le sens. Et c'est très tenu et assez juste, l'équilibre entre ces trois choses, ces trois formes, quoi.
Mm-hmm. Ça me fait presque penser à Warhol un peu aussi sur ces...
C'est notre background aussi. Tu parlais de Duras tout à l'heure. Évidemment, Duras, elle a été fondamentale aussi, comme l'a été pour moi Straub et ces gens-là, mais Warhol aussi, quoi. Dans un interview pour papier, alors dans une discussion qui a fini par être imprimée avec un historien de l'art, je disais que pour moi il n'y a jamais eu d'hésitation entre Grégory Markopoulos, si tu vois son travail.
Non.
Ah oui, lui c'est un Américain complètement jeté, et Warhol.
Okay.
Le choix, il était très clair, quoi. C'était Warhol à 100% et 0% Markopoulos. Markopoulos, c'est quelqu'un qui travaille sur... Je ne veux pas dire que son travail n'est pas intéressant, hein, ce n'est pas du tout ça que je veux dire, mais il travaille sur la perception visuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un plan qui fait plus que, je ne sais pas, 15 images. Et c'est vraiment C'est pour moi d'une violence, mais extrême, quoi. Je supporte pas qu'on me balance comme ça. Et ça, c'est de la vraie expérimentation, quoi. Ça, c'est du travail expérimental.
Ouais, puis ce qu'on retrouve aussi dans les Straub, moi, ces sensations quand je regarde leur cinéma, c'est que t'as quelquefois ton esprit qui fout le camp ailleurs. Parce que tu peux pas avoir cette attention permanente à ce qui est en train de se passer. C'est trop fort. Enfin, c'est trop... ça demande trop de disponibilité à chaque instant. Puisqu'il y a des moments où il ne se passe rien. Donc ton esprit va voyager ailleurs. C'est obligé. Il peut pas être là tout le temps. Et donc c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il revient, et c'est ces instants où l'esprit revient. Et que, voilà, dans les films de Warhol, c'est ça aussi.
Oui.
C'est ce que je ressentis hier. Tu vois,
mais oui, le temps, la
relation. C'est comme quand tu es là et tu regardes une séquence, il se passe quelque chose, tu regardes un paysage ou même une séquence en train de se passer. Tu es là et puis tout d'un coup, ton esprit fout le camp et il revient. Donc c'est ces va-et-vient entre sortie et retour.
Oui, je pense que Duras aussi, par exemple, bon, un film comme Le Camion, ça a été mais totalement Oui, totalement fondamental, bouleversant. Et là aussi, il y a quelqu'un qui. Bon, c'est tout à fait différent, hein, mais il y a quelqu'un qui lit un texte, hein, qui parle avec quelqu'un, qui essaye d'expliquer, et tout d'un coup, il y a ces plans, il y a tout du long, ces espèces de plans, hein, avec ce camion qui se promène, quoi, dans le paysage. Oui, c'est extraordinaire, quoi. C'est des films qui arrivent à avoir une puissance. Qui reste, quoi. C'est le film qui reste, qu'on n'oublie jamais. Jamais, c'est pas possible, quoi. Ah, c'est vraiment...
Et c'est marrant parce que ces chocs d'expérience, j'ai emmené, enfin, j'ai proposé à un ami à moi qui est pas du tout cinéphile de venir voir un film de Dawkins qu'on avait projeté au Vidéodrome. Et ça a été pour lui une expérience atroce, hein, enfin, en termes de ce qu'il était capable de supporter en termes d'attente, tu vois, de cette souffrance de ne pas être dans l'action, etc. Et en même temps, il n'arrête pas de m'en parler.
Ah
Tu vois, c'est un truc, c'est un coup de hache, ça te marque vraiment.
Oui,
Parce que
absolument.
alors, c'est une certaine forme de violence, mais c'est ce qui te réveille aussi complètement. C'est ce qui sort ton esprit de la nourriture, tu vois, du gavage. Tout d'un coup, paf, on te met à la diète. Et alors là, il se passe une brèche. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe qu'il y a une réaction très forte de rage ou de. Et c'est ça qui est intéressant dans l'expérience de ces films aussi, c'est de mettre le spectateur dans une forme de tension telle qu'il se passe des visions, quoi. Mais ça se produit à différents endroits. Et du coup, ça continue de se produire après, parce que.
Bien sûr! Bien
tu
sûr,
vois,
ça reste, quoi.
parce que
ça
sur le moment,
reste,
tu es là,
ça
quelquefois tu peux dire,
reste.
oh là là, bon, qu'est-ce qui se passe,
Oui,
etc. Et
oui,
puis,
et puis, tac, les images
il s'est
restent,
passé des
quoi.
trucs, quoi.
Et ça, quand même, aussi, hein, c'est, ben, tous les gens dont on parle, tous ces noms, c'est tous les gens qui commencent à travailler dans les années 50, hein, ou qui expérimentent toutes ces choses. Enfin, c'est toute une époque aussi, hein, je veux dire, bon, j'ai pas de nostalgie par rapport à ça, mais c'est quand même un moment où nous, on était tout le temps en train de regarder et de voir, hein, des films de cette densité-là, quoi.
Ouais, ça s'inscrit vraiment dans
Et
une
ça
époque.
s'inscrit dans une époque, quoi. Et
Mmh.
donc, le travail, enfin, c'était plus un choc. C'était nos réalités, c'était notre rapport à l'image,
Rapport au monde.
notre rapport au monde et tout. Ça faisait partie c'est comme ça qu'on a grandi, si on veut, intellectuellement ou
Artistiquement.
artistiquement, émotionnellement. Émotionnellement, c'est avec ça qu'on a grandi, quoi, qu'on a forgé notre rapport au monde, en fait.
C'est vrai, ce qui pose question, c'est que les outils ont changé. Bon, bah, on est passé de la pellicule au numérique, mais aussi pour notre cerveau a muté quelque part. Enfin, là, on est là à cette table. Bon, l'autre, tout à l'heure, tu regardais tes textos, tu envoyais un texto. Moi, je pense à un mail que je dois envoyer. Enfin, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus
Tout le temps
tout le
sollicité.
temps sollicité, que ce soit le portable, l'internet, les écrans.
Une question d'éparpillement
Et
plus que
c'est pour ça que
dispersion.
dans tes films, je trouve qu'il y a une confiance au réel très forte, mais qu'elle y a à une époque, en fait, où, bah oui, quand on était quelque part, on était vraiment quelque part.
Oui.
Et du coup, bah, on filme quelque part parce qu'on y est. Et aujourd'hui, on sent que dans les films, on n'est pas vraiment quelque part. Enfin, c'est difficile qu'on soit quelque part.
Ouais, parce que ce quelque part n'existe plus.
Ouais.
Quelque part.
Il y a une confiance au réel qui a disparu, et c'est assez douloureux, moi. Enfin, dans les films asiatiques, je trouve qu'on la retrouve. Ils ont encore cette confiance-là, alors c'est peut-être culturel, dans la croyance, dans leur
Oui, puis je
rapport au
pense que
temps.
c'est culturel, puis c'est historique, c'est des régimes la plupart communistes qui se sont préservés du capitalisme le plus qu'ils pouvaient, quoi. Même si maintenant ils le sont devenus
Ah oui,
à
ils sont
l'excès, mais il y a quand même, comme tu
consommés.
parlais tout à l'heure de Kyoto, ou de quelque chose d'une sorte de. Ils ont tenté de préserver quelque chose qui est aussi de l'ordre des traditions, de tout ça, que nous ici.
Où ils redécouvrent. Par
Où
exemple, je
ils
pense aux Chinois. Bon, les Japonais, je les connais moins, les contemporains, mais Je connais plus ceux des années 70, juste 70, excusez-moi, mais les Chinois, par exemple, si quelqu'un me parlait de Wang Bing, c'est quelqu'un qui a dû découvrir très récemment toute cette époque passée, qui repart de ça pour expérimenter, lui, à la sortie de ce couloir social, enfin, bref, chinois. Donc, pour eux, c'est une ouverture. Donc, ils repartent de ça pour aller à leur manière quelque part. Quoi. Mais un film de 6 heures ou 7 heures, comme à l'ouest des rails, à l'est des rails, je ne sais plus, le premier qui nous l'a rendu, en tout cas publiquement connu. Ben oui, on peut se dire que Warhol a fait ça, ou je ne sais pas, d'autres l'ont fait chez nous, Rivat avec Antoine pendant 6 heures ou 7 heures. Ça existe, c'est pas nouveau, si non, on non, veut. Mais là, c'est s'emparer de quelque chose que nous, de notre côté, ben, on a complètement dispersé, perdu, que ça n'a plus d'intérêt. Bon. Ça va revenir, hein, je pense.
Ça va revenir parce que...
Ça va revenir, oui. Justement, chez les 25-30 ans qui commencent à être un peu perdus au milieu de nulle part. Quoi.
Parce que ce qui est quand même...
ce qu'ils doivent faire.
Ce qui est quand même phénoménal, c'est qu'on arrive à aller rechercher, enfin, à être bouleversé par des cinémas comme... je ne sais pas si tu connais Lav Dias, qui est un cinéaste philippin, et qui sort au Jeu de Paume, tu vois, une rétrospective avec des films qui durent jusqu'à justement 9 heures ou plus. Et donc, du coup, qu'à un moment donné, il puisse aujourd'hui y avoir un intérêt pour ça, quoi. Et bon, ça dit peut-être que, justement, ça parle peut-être de cet éparpillement et ce besoin de revenir à une histoire de durée, de temps, de se poser, de prendre le temps de voir, peut-être.
Oui, et puis d'avoir des pistes, de canaliser un peu la possibilité de réflexion. C'est-à-dire que pour eux, l'éventail, il est juste derrière la tête, partout. C'est un 360 degrés, l'éventail. Hein. Il n'y a plus de... Je ne sais pas, moi, justement, on était soit un peu marxiste, soit un peu ci, soit ça. On avait quand même... Des espèces de couloirs aussi un peu restrictifs. Hein. À cette époque-là, on était vraiment très, très...
Mais qui permettait de se situer.
Mais qui permettait de se situer et de se construire aussi avec, au niveau de la pensée. Quoi. Et je vois, par exemple, les enfants maintenant, enfin, les enfants de mes amis, puisque moi, j'en ai pas, mais qui est 25-30 ans, hein, ils sont... Mais waouh! L'éventail, il est complet. Il faut resserrer. Et ils essayent de resserrer. Mais ils ne savent pas très bien comment. Parce que ça, c'est génial. Ouais. Et puis ça, c'est pas mal aussi. Et puis là-bas derrière, il y a une nana qui parle des sorcières. Ouais. C'est aussi parfait.
Mais moi, ce que je retiens...
Et donc, il faut recanaliser quand même. Donner cette capacité de construction. Quoi.
Bah, de se situer. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, dans ce que je retiens, c'est... Tu vois, tu disais, bah, tiens, nous, on était un peu marxistes, un peu ci... Un peu ça,
en parlant. Très marxiste, plutôt, je dis un peu, c'est pas voilà, vrai du tout.
Ou très marxiste.
Situationniste, enfin, on avait des
rails.
On avait des rails, hein, très précis.
Et au-delà de la question de la génération des 25 ans, moi je vois, nous, notre génération des 35-40 ans, cinéastes, 45 et autres.
50.
Et ben, tu vois, sur la question, il n'y a plus, nous, la. En tout cas, c'est ce que je ressens, c'est que la question du cinéma et du politique, elle est complètement dissociée. Moi, je connais aucun cinéaste, et moi non plus, je ne le suis pas, qui pourrait dire « je suis un peu marxiste, je suis un peu socialiste, je suis un peu... » Tu vois, qui pourrait le dire comme quelque chose faisant partie d'un endroit qui le situe et d'un endroit qui aussi situe son geste de faire du cinéma. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce qui s'est transformé en propre, mais qui revient à la question de l'éclatement, c'est que d'un point de vue du politique, c'est l'éclatement, et qu'est-ce qui fait sens? On ne sait pas. Mm-hmm. Et comment on se définit? Moi, je ne me définis plus du tout politiquement. C'est poétiquement. Après, politiquement, je n'ai pas de... Il n'y a plus d'histoire à cet endroit-là, quoi. Vous, vous aviez des histoires.
On avait une histoire aussi, une histoire. Avec un grand H. Hein, ouais, avec on avait l'histoire avec un grand H.
Puis hein, la chute du mur de Berlin, etc.
Puis avant, même. Ouais, on commence à la Deuxième Guerre mondiale, qui était encore très, très présent. Hein, la reconstruction, etc. Quoi, c'était quand même... On avait l'histoire avec un grand H. Hein. Et qui était la manière, on peut dire, d'abord, avant d'avoir cet éventail de savoir si on était situationniste ou marxiste-léniniste ou je ne sais pas quoi, ou stalinien, même pour certains, il y avait tout, il y avait l'histoire qui était derrière nous, les luttes par rapport à l'histoire, mais oui.
Tu disais sans illusion, sans utopie pour te concernant. Alors que quand même, c'était
très clair que, en tout cas, moi j'avais 17 ans en 68, donc j'étais encore une gamine, hein, disons. Comme je disais aussi, moi j'ai pas été, j'ai pas eu l'implication qu'un mec comme Garrel a eu, ou d'autres Français ont eu, dans le réel, dans le mouvement même.
Mais c'était quand même une époque porteuse d'espoir.
Exactement,
quand même.
Ouais, mais très vite, c'était très clair. Très vite, c'était très clair.
D'espoir.
Qu'on avait perdu la bataille.
Ah
quoi.
Bon, okay.
C'est sûr. Milieu des années 70, c'était foutu. Quoi.
Ah, oui.
Tout s'était récupéré. Quoi. Tout était récupéré.
Ah, oui.
Le capital était en train de gagner. Mais en même temps, on est toujours resté avec. Enfin, moi en tout cas, je veux dire, jamais changé de cap. Je pense toujours qu'il faut être inscrit politiquement quelque part dans sa pensée, que tout le travail que je fais, il est aussi politique, même si ce n'est pas des slogans. Hein, mais c'est mon inscription au monde, elle est indissociable de l'autre, de l'extérieur. L'intimité, ça ne m'intéresse pas, en fait.
You're squeezing me down to the bone. You're setting me up to put me down. You're making me out to be your glass. Maybe it's your heart. Maybe you cried in love. Maybe you're living too rough. Maybe you're giving too much. Maybe the people want more. Maybe you're asking what for.
Papy, au combien de fois faudra vous répéter de ne pas mélanger les assiettes creuses et les assiettes plates quand vous rangez les huiles. C'est pas possible.
Tu disais que t'avais plus d'illusions aujourd'hui et qu'aujourd'hui il fallait prendre la parole.
J'ai des envies, j'ai envie d'avoir des illusions, quoi. J'ai envie de me dire que c'est pas possible, que les gens descendent bons. Il y a eu des mouvements, même si on n'y croit pas trop, quoi. Je veux dire, quand même, les gens qui descendent dans la rue, nuit debout, je sais pas, ou même un mouvement. Que je prends, enfin même tout ce que je prends avec des pincettes comme ça, comme MeToo, quand même, c'est important que ça se passe, quoi. Alors, on peut dire, oui, ces nanas qui sont au sommet de la starification, qui commencent à s'exprimer, elles auraient mieux fait de s'exprimer avant. Oui, bien sûr, elles auraient mieux fait de s'exprimer avant, mais avant, elles n'auraient pas eu le pouvoir de faire bouger les choses, quoi. Bon, ça bouge, c'est pas mort, c'est pas figé, quoi. Il y a des tentatives qui se font et qui sont peut-être plus intéressantes même que les nôtres, parce que moins figées, parce que plus ouvertes, quoi. Je sais pas, mais ça bouge.
Et tu disais,
ça fait du bien,
c'est,
ça, quand même.
C'est ça qui te rend donc positif, parce que tu dis qu'on a beau être dans un chaos... Il y a toujours, ça bouge
et ça va encore bouger plus. On peut pas traiter les êtres humains à la manière dont on les traite hein, aujourd'hui, dont le pouvoir les traite, dont le capital les traite à cette manière-là. Impossible, c'est, j'y crois pas. Je crois pas qu'on peut durer comme ça, quoi. C'est les réfugiés qui arrivent par la Méditerranée, mais vraiment, ils sont obligés de se demander s'ils ne vont pas finir par avoir un bateau suisse, parce que, à Genève, il y a un mouvement dans cette direction-là, c'est pas possible, on ne peut pas laisser les gens crever en Méditerranée. Bon, on les a toujours laissés crever, hein, je veux dire. Mais là, quand même, c'est aux yeux de tout le monde, quoi, c'est pas un pays lointain... C'est pas la guerre du Biafra, quoi, ou même le Rwanda. Celle-là, c'est chez nous, quoi, que ça se passe, vraiment. Oui, à Genève, ils mettent les réfugiés dans les bunkers. C'est vraiment juste incroyable. Dans une ville aussi riche, aussi petite, aussi... Tu sais, on m'en fout dans les abris anti-atomiques. Parce qu'on a construit beaucoup d'abris anti-atomiques dans les années 70 chez nous. Hein. Il y en a partout dans la ville. Hein. Il y a eu un moment où, par exemple, si tu voulais construire une maison familiale, hein, comme ça, avec un petit bout de terrain, comme la plupart des petits bourgeois ont fait, tu devais construire un abri pour ta famille dans la maison ou sous la maison, enfin bref. Et moi, j'ai un de mes frères, par exemple, qui a des portes blindées de 1 mètre d'épaisseur dans une cave, comme ça, toute petite, pour mettre juste 4 personnes. Mais 4 personnes qui doivent rester comme ça l'une contre l'autre, je suppose. Un délire total. Ça, c'est les années 70, quoi. Et donc, on met maintenant, jusqu'à l'année passée, peut-être que maintenant, ils ont dû les sortir, finalement, mais jusqu'à très récemment, on mettait les réfugiés qui arrivaient dans ces abris anti-atomiques, mais généraux, hein, pas ceux des familles, ceux qui étaient faits pour la population. Parce qu'il y en a des immenses pour 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Hein. Il y en a vraiment un peu partout dans la ville, des immenses, quoi. Et on casait les réfugiés, là. C'est cool, hein. Si tu vois ce que c'est qu'un abri, comment tu vois, je veux dire, complètement fermé, complètement bétonné, avec des portes comme ça, dans des endroits invraisemblables, sous les parkings, par exemple, sous les parkings à voitures.
Et s'il y a une guerre mondiale, ça sera les seuls survivants.
on pourrait dire ça.
Non, mais après, ça raconte ce qu'on disait, ou pour revenir à ce qu'on parlait du cinéma, c'est-à-dire que ces sortes de choses, d'aberrations qui font que... Moi, ce que ton cinéma me permet de comprendre, c'est ou tout comprendre, c'est un mot que j'aime pas trop, mais en tout cas ce que j'éprouve, c'est la et ce que tu disais toi, c'est comment c'est important de d'être situé entre guillemets quand on se met à avoir un désir d'expression, un désir de dire son rapport au monde, son rapport à l'image, comme c'est important d'être situé. Et ce qu'on vient de dire là sur les questions des réfugiés, c'est comment c'est tellement aberrant que oui, la complexité, c'est de se situer, j'ai l'impression, et qui fait que la puissance des images et des sons ben, dépend de ça, et qu'à notre époque, c'est autre chose, quoi. C'est tout est fragile, quoi. Il n'y a plus cette force. Après, la fragilité, c'est aussi intéressant. Hein. C'est mm-hmm. comme un moment transitoire, ou mm-hmm. comme si on était à un moment là où on se remettait à chercher, quoi. Parce qu'il n'y avait plus d'évidence à aucun endroit. Donc,
parce
on
qu'il
cherche.
Faut trouver autre faut chercher, chose faut trouver. Aussi.
Trouvons
faut
comment trouver on s'exprime.
Comment on arrive à se restructurer un peu différemment, voilà. quoi. Ouais. Qu'on ne va pas refaire les mêmes bêtises que nous, on a fait.
Et les mêmes succès non
et
plus.
Et les mêmes succès aussi. Mais disons que, oui, il y a une manière de se... Il faut retrouver une manière... De devenir beaucoup. Quoi.
Ouais. Quel regard tu as sur la société suisse par rapport, enfin, je me questionne parce que je ne la connais pas. Je la connais pas, mais je veux dire, quand toi tu viens de là-bas, tu viens ici, à Marseille, et je ne sais pas comment on va le lier au cinéma, mais j'avais envie de te poser cette question-là.
C'est un peu, on pourra en parler peut-être en hors-champ, je trouve. C'est plus intéressant de parler de la société suisse. Parce que c'est. C'est compliqué.
Oui.
C'est des coffres-forts et des banques. Hein. Voilà. Et le sommet du capitalisme. Non,
ça, et de la neutralité. Pseudo-neutralité.
Je voulais te poser cette question-là par rapport à la violence que ça peut générer quand tu...
rage.
La rage, voilà. Mais je me demandais si en tant qu'artiste, ou etc., est-ce qu'on pourrait... Dans mon imaginaire, être peut-être plus exposé ou avoir envie de réagir dans une société comme en Suisse, plus qu'ailleurs, ou finalement c'est pas.
Je pense que chaque société a ses. Je pense que c'est pas lié à ça, quoi. C'est pas lié à un plus ou un moins, quoi. Parce que la situation elle est aussi différente. On pourrait dire que peut-être l'exploitation dans les usines elle est moins grande que celle
qu'on a en France. Par rapport
enfin, tout est relatif. C'est d'autres questions, c'est d'autres exploitations, c'est d'autres formes de. Mais la consommation, par exemple, elle a laminé complètement toute la population, de toute façon. Et c'est sans doute beaucoup plus fort qu'ici, parce qu'il y a plus d'argent au niveau médium, quand même.
Et juste pour, vu qu'on parle du contemporain, toi, ton inscription dans ce qu'est l'univers du cinéma, à l'heure de maintenant, ça se situe...
Aujourd'hui, c'est fini, quoi.
Tu n'es plus à des endroits de fabrication, de partage, de regard.
Là, au niveau du cinéma, c'est terminé, quoi. C'est vraiment terminé. Il y a un fossé qui s'est creusé, qui est gigantesque, qui est pas compatible, quoi. Le fossé, c'est des mondes de différence, quoi. Ouais. Donc là, pour moi, il n'y a plus de possibilités, malheureusement. Hein. C'est pas que je l'ai souhaité, mais c'est une réalité.
Tu n'aurais pas eu envie de faire comme, par exemple, Straub tente de faire des films tout seul, petits, en numérique ?
Moi, je fais des films tout seul, petits, en numérique, bien D'accord. sûr. Je continue.
Tu continues.
Mais ils ne sont plus inscrits. Pour moi, ils ne sont plus inscrits dans le cinéma, mais dans les arts plastiques. Mmh. Et mes soutiens financiers actuellement, c'est les arts plastiques. C'est-à-dire que toutes les bribes d'argent que je peux, les bourses ou les aides, les soutiens que je peux obtenir aujourd'hui, c'est les arts plastiques. Il n'y a plus rien, 0,0000 au niveau du cinéma.
D'accord.
Et je ne l'ai pas choisi, hein. C'est vraiment, on m'a poussé dans ce...
Du coup, c'est des économies beaucoup plus petites.
Donc, c'est évidemment une économie beaucoup plus petite. Récemment, il y a 4-5 ans, justement, j'avais ce projet de long-métrage pour reprendre le triptyque, là, les trois films de fiction, avec les enfants, justement, qui sont grands maintenant.
Tu dis les enfants, c'est les enfants de...
C'est mes enfants qui ne sont pas les miens, quoi. Mais...
C'est les enfants de ce groupe-là
Les enfants, oui, du groupe. Tu vois, Tanray, il a deux enfants. Bon, ceux-là, je ne les connais pas vraiment, mais si on était plus proche physiquement, voilà, il ferait partie de la tribu, si l'on peut dire. Mais bon, c'est les enfants, c'est le, tous les enfants qui sont nés autour de moi, de tous ces gens qui sont dans ces films et qui sont des amis, quoi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai perdu le fil. Ah oui, dans ce projet cinématographique, c'était de nouveau long métrage de fiction. 5 vieux, 5 jeunes. 5 enfants, 5 vieux, 5 jeunes. Et comment ça travaille aujourd'hui ? Comment ça, ça travaille ? Comment justement eux affirment une différence, une autre approche du monde ? Et comment ça dialogue, hein, quand même, parce que contrairement, c'est quand même une nouvelle génération qui pour moi est vraiment passionnante, hein, dans le sens où ils n'ont plus la même approche des vieux, ils ne voient plus les vieux comme nous on voyait les vieux, c'est-à-dire que nous on était en rupture, hein, complètement. Moi, j'ai pas vu mes parents, ben, moi, je sais pas, je m'en foutais, ça m'intéressait pas, hein, vraiment du tout, pendant des années et des années, quoi. Eux, ils sont tout le temps dans le dialogue avec les parents, tout, et ils affirment, mais ils affirment dans un dialogue, et c'est pas contre, jamais. Et ça, je trouve passionnant aussi. Peut-être que ça leur permettra d'aller beaucoup plus loin que nous aussi, aussi d'avoir cette ouverture-là. C'est juste qu'il faudrait qu'ils arrivent à trouver une manière de resserrer un peu l'éventail, quoi.
Mais ce film, donc, tu l'as pas pu...
Poubelle.
Et donc, tu as transformé ce projet ? Non.
Non.
Non, parce que tu avais commencé en disant que j'avais tenté ce film il y a 4-5 ans... Et tu parlais aussi des petits financements que tu avais.
Je fais autre chose avec.
C'est quoi les autres choses, alors ? Pour nous donner une idée un peu de ta pratique au présent, comment tu l'expliciterais ?
Ben, par exemple, il y a ces deux dernières années, j'ai fait un travail sur l'Est de Londres. La partie Est qui est devenue hyper bobo, hyper branché, hyper gentrifié, qui était la partie la plus pauvre, enfin, un des espaces les plus pauvres de Londres, hein, avec tous les migrants, hein, depuis plus d'un siècle, deux siècles. C'est le port, hein, c'est toute la zone du port. Et donc maintenant, cette zone est complètement... C'est une zone, c'est plus grand que la ville de Genève. Hein, c'est peut-être, je ne sais pas quoi, presque 800 000 habitants, ou j'en sais rien combien ça fait, hein, cet Est, ou 1 million même. Et ouais, ils ont balayé, quoi, mais très vite, hein, Thatcher a commencé. Chuit, et en moins de 30 ans, c'est balayé terminé. Hein, donc il n'y a plus que des tours, il n'y a plus que des banques... Hein, les prix se sont envolés. Enfin, c'est vraiment une situation qui est exemplaire de ce qui se passe
un peu partout dans le monde.
Moderne, enfin post-moderne, je ne sais pas comment on l'appelle, mais le capitalisme néolibéral ou post-capitalisme, enfin j'en sais rien, quoi. Mais donc, j'ai travaillé là-dessus, photographie et deux petites pièces vidéo.
T'appelles ça des pièces vidéo ?
Ouais, ouais. Parce qu'il n'y a pas d'autre manière de les appeler, quoi. Et donc, installation, exposition, installation.
Et c'est exclusivement à cet endroit-là que tu travailles depuis ces dernières années ?
Alors, oui, ça fait pas mal de temps que... Ça fait déjà assez longtemps que j'ai recentré ma pratique à partir d'un premier échec financier. Je dirais il y a 15 ans, en 2000, autour de 2000, ou fin des années 90, où j'avais un projet documentaire, un vrai documentaire là, à ce niveau-là, sur un architecte suisse des années 20, hein, communiste. Et bon, c'était un très beau projet, mais un très lourd projet aussi, un gros projet. Et ça a été balayé, mais balayé. Hein. Donc là, je me suis dit, bon, quand même, j'avais 50 ans plutôt que bientôt 70. Et je me suis demandé comment continuer à travailler, quoi, à continuer à faire et à produire. Donc il y a, là, j'ai commencé à me recentrer sur, disons, sur le début de mes choses. Hein. J'ai fait les beaux-arts, la peinture, etc. Donc j'ai commencé à me recentrer là-dessus et ça a fini par prendre tout l'espace. Quoi.
C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où tu commences à utiliser pour la première fois les outils numériques, on peut dire ?
Non, ça ne veut rien dire. Ça, pour moi, c'est pas très... ça n'a jamais été une question, en fait. Je travaillais en SAS parce que j'aimais bien ça et puis que c'était possible. Mm-hmm. C'est plus possible. Ben, je fais autre chose, quoi. J'utilise la vidéo. Mais tu parlais de mon deuxième film, Allegro, comme mon deuxième film. Le premier, il est fait en vidéo de mi-pouce noir-blanc. Bande lisse, donc même sans avant les cassettes, quoi. Donc c'est pas. Oh. Excusez-moi. Ah oui. C'est pas... Donc ouais, je crois que ça c'est. Mais en même temps, j'ai plus d'autres solutions, quoi, actuellement.
Oui, puis c'est revenir à une forme de, peut-être de liberté de travailler comme tu as envie aussi, c'est-à-dire quand tu reviens à ce que tu es peut-être...
C'est-à-dire que c'est de pouvoir continuer à travailler avec une liberté complète.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui m'impose quoi que ce soit. Dans le sens où je fais un projet, soit ce projet il passe, soit il ne passe pas. Mais s'il passe, effectivement, après... Après, je le produis, je le fais, je le fabrique, je le crée. Mais il n'y a personne qui va venir mettre son nez là-dedans en disant...
Qui va t'empêcher de faire.
Qui va m'empêcher de le faire ou qui va me dire... ah non, alors aujourd'hui, il faut mettre un petit peu plus de poivre et de sel, un peu de vinaigre, là, ou je ne sais pas, enfin, tu vois. De faire une sauce qui soit...
acceptable.
Qui soit acceptable, quoi, je veux dire. Donc, voilà, je me suis... Et, disons, au cours de ces années-là, il y a eu un moment quand les enfants ont commencé à devenir adultes, où j'ai eu l'envie de reprendre ce travail de fiction en long métrage, donc en production quand même conséquente, pour parler de ça, quoi, pour remettre, disons, les choses, retrouver cette démarche du passé, quoi. Mais non, ça n'a pas marché.
Tu disais qu'il fallait prendre la parole aujourd'hui, que tu ferais un film différemment hier dans le débat.
Non, ce que je disais, c'est pas prendre la parole. La parole, je l'ai toujours prise, mais
c'est la parole dans tes films.
C'est de travailler sur les dialogues. C'est qu'aujourd'hui, ça me semble fondamental. Quoi. Parce qu'il y a un manque. Parce qu'il y a ce manque de structure. Parce qu'il y a ce manque de construction, ce manque du politique, ce manque de par rapport aux nouvelles générations qui, comme on disait tout à l'heure, sont un peu avec un éventail tellement large qu'elles ne savent plus très bien où se situer. Donc l'idée pour moi d'être plus explicitement dans le dialogue, plutôt que dans la voix off un peu poétique ou dans la musique, Dans Perfect Life, c'est la musique qui va prendre la relève de la voix off, des textes de Tenret, hein, qui m'ont accompagné quand même pendant très longtemps. Là, pour moi, maintenant, c'était essentiel de penser les dialogues. Et dans le scénario, qui fait le même, à peu près toujours le même nom. C'est le même fonctionnement au niveau de la structure formelle. Hein. C'est toujours des plans séquences, c'est toujours une relation au temps très longue. Mais là, il y a énormément de dialogues. Il y avait énormément de dialogues.
Qui était écrit à partir de quoi ?
On a écrit ça avec Tenret à partir des idées justement, principalement politiques et de relations dans les plus intimes des jeunes entre eux. quand ils sont entre eux, ils parlent plutôt de choses qui les préoccupent, comme la grossesse, comme les relations, justement, de domination, garçon-fille, comment ça se passe, ces choses-là, quoi. Donc, entre eux, c'était plus lié à ça. Et puis, dans le dialogue, les vieux, entre eux, toujours extrêmement pugnaces, au niveau des avis, hein, très tranchés, aussi parmi les vieux, ceux qui ont quand même changé de bord au cours du temps, parce qu'il y en a quand même beaucoup parmi nous qui se sont complètement insérés dans ce monde un peu privilégié.
Daniel Cohn-Bendit.
Bon, ça c'est... Oui, Mais même à un niveau comme le nôtre, il y en a beaucoup qui sont un peu, qui ont un peu abandonné abandonné toutes leurs belles idées. Donc entre les vieux, il y avait pas mal de mise en scène de ces choses-là, et avec les enfants, plus dans une histoire de confrontation, mais productive de sens, quoi, pour eux. Donc c'était vraiment, oui, c'était un gros travail de
un beau projet en tout cas.
Un gros projet
et un gros. Et beau, enfin je veux dire, c'est intéressant, enfin ce que tu dis.
Oui, moi je pense, et par exemple les jeunes, hein, qui ont reçu le scénario, parce qu'au moment où on pensait qu'on arriverait à le produire, quand même, moi j'ai quand même pensé que j'arriverais à le produire avec mon minimum de réputation, et eux ils étaient vraiment désespéré qu'on ne le fasse pas, quoi. Enfin, pas désespéré, parce qu'ils ne sont jamais désespérés, mais très, très tristes, quoi. Ils ont beaucoup insisté, mais non, Véronique, on le fait, on doit faire ce film. On le fait, nous, on s'en fout, on n'a pas besoin d'argent, on le fait sans rien, avec la vidéo.
Et toi, c'était pas... Non, tu l'as pas... C'était trop... Tu sentais que c'était...
Ça va, je... Il faut que je vive, moi, j'ai pas de revenus, toute ma vie, elle est obligatoirement dans la recherche d'argent, quoi, parce qu'autrement, autrement, je finis sur le trottoir, quoi.
Et puis un projet comme ça, c'est
et
tellement
puis,
long.
J'ai plus envie, je me dis, pendant 20 ans ou 30 ans... Chaque fois, il faut recommencer, chercher le minimum d'argent, toujours travailler un peu, juste à la limite, faire des compromis aussi, enfin pas des compromis fondamentaux, mais disons resserrer, oui, alors de vie, ça on n'en parle pas, mais resserrer aussi, par exemple, je ne sais pas, dans une des séquences de Perfect Life, je voulais de la neige, ça fait des années que je veux de la neige dans un de mes films, j'y arrive jamais, et là, on était dans une séquence de nage dans une piscine, et je voulais absolument de la neige, et donc il n'y avait pas de neige, hein. Donc, je dis au caméraman, si on fait venir les camions à neige, est-ce que tu me garantis qu'à travers les vitres de cette piscine entièrement vitrée, hein, où il y avait quelqu'un qui nageait dans un bassin, est-ce qu'on a la neige à l'extérieur? Et il me dit, oui, en principe. Puis je dis, mais en principe, ça veut dire quoi? Bon, il me dit, je ne peux pas te le garantir. Donc on a laissé tomber, parce que faire venir des camions à neige et ne pas avoir la neige, j'ai pas les moyens. Je peux faire un choix en disant, ça je fais pas, mais je veux la neige. Donc on fait une dépense un peu hors norme, mais parce qu'elle va être là.
Quoi. Et puis ça se truquait pas à l'époque, ces histoires-là.
Numériquement.
En 16 mm?
Ah ben oui, mais...
16 mm, je ne sais pas comment on aurait fait pour truquer. Pourtant, j'ai fait beaucoup de trucage. Hein. Je n'ai rien non plus là contre. Hein. Là aussi, si le truqueur avec qui j'ai travaillé aussi pendant pas mal de temps pour les génériques et ces trucs-là, s'il m'avait dit « oui, oui, on va la fabriquer », je pense que j'aurais dépensé cet argent pour la fabriquer. Mais bon, voilà, c'est tout le temps une économie où tout doit être vraiment extrêmement pensé, être réfléchi, pensé, assuré, pour pas se retrouver dans une situation financière catastrophique, quoi. Alors bon, ça j'ai toujours fait. Et puis là, je me disais, mince, j'ai 65 ans, ça va, quoi. Je voudrais bien pouvoir, m'asseoir sur une chaise avec mon nom derrière et dire, voilà, j'ai l'argent pour faire les choses comme je veux. Mais bon, ça n'a pas marché. Donc j'ai abandonné. Mais je regrette maintenant. Bon, maintenant, que... je me dis, ah, on pourrait quand même peut-être... s'y remettre, comme
ah oui, d'accord.
S'y remettre et faire ça justement de manière très pauvre en vidéo, mais j'en sais rien. J'ai plus, peut-être j'ai plus d'énergie non plus.
Oui, parce que c'est une grosse énergie.
Ouais, puis oui, on a besoin de dormir aussi. On est vieux, on a besoin, on a moins de... Bon, d'agilité, hein. Je disais justement David, l'autre journal, à la publication, ouais. Cette publication-là, puis donc j'ai feuilleté ça. Et puis il y a, un dialogue entre Duras et Mitterrand en 80, je ne sais pas quoi, 4, 5, 6, je sais pas, enfin cette époque-là, plus ou moins. Et puis ils sont tous les deux en train de dire oui, mais non, ton souvenir il est faux, c'était pas comme ça, mais. Ah oui, peut-être que... Mais je ne me souviens pas de ça. puis tu te dis oui, c'est notre réalité quand même. Il y a un moment donné, c'est plus... Les souvenirs ne sont plus aussi... Avec le temps, ils sont là, mais ils sont parfois faux. On n'était pas à la place de la Bastille, mais on était, je ne sais pas, à Dijon, ou je ne sais pas, j'en sais rien, mais il y a des choses comme ça qui oui, c'est, peut-être que ce n'est pas la réalité de tous les individus, mais quand même de beaucoup.
Et on en a évoqué légèrement, mais tu ne suis pas trop alors ce qui se fabrique en images, en son, en film de maintenant, des jeunes de maintenant, tu regardes peu tout ça ou...
Ouais. Trop. Peu. De temps en temps, j'ai des pistes avec le site de Dérive, justement, où je vais voir qu'est-ce qui se passe, des gens que je connais pas, dont j'ai jamais entendu parler, ou des choses comme ça. Mais autrement, c'est vrai que même à Genève, on a un cinéma comme peut-être Vidéodrome, mais qui est le Spoutnik, qui est là depuis 40 ans, ou je sais pas, 30 ans. Plus. Je regarde le programme, je comprends rien.
Mais tu allais beaucoup avant ?
Ah ben oui, c'était aussi des potes, quoi. Plus oui, jeunes, mais voilà, c'était vraiment.
Tu comprends rien à quel niveau ?
Mais je comprends rien. C'est un vocabulaire, je comprends rien ce vocabulaire. Je sais pas. C'est psychotronique. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, psychotronique ? Je sais même pas ce que ça veut dire.
Non plus psychotronique.
Bon, ben voilà. Alors, il y a des soirées psychotroniques. Tous les mois, il y a une soirée psychotronique. Hein? Non, peut-être que je me trompe même dans la formulation, mais je crois que c'est ça, quoi. Et vraiment, je comprends rien. Je peux rien faire avec ça, moi. Je sais pas. Après tout, on parle de cuisine. C'est délicieux, un menu sucré-salé, un film sucré-salé. Non, mais j'en sais rien, mais... C'est vraiment... Ça va pas, quoi. Je veux dire, ça va pas, j'arrive pas, quoi. Donc, de temps en temps, il y a une chose, tout le coup, je me dis, ah, il passe ça, alors je vais aller voir, quoi. Ou revoir, mais en principe, si je sais pas qui c'est, je vais pas. C'est trop risqué, quoi. Là aussi, j'ai plus vraiment le temps, l'énergie. J'économise mes forces, en fait. Un peu.
Tu préserves ton désir.
t'es pas proche de jeunes cinéastes, j'allais dire, avec lesquels tu as un dialogue.
C'est très difficile, hein. Ils sont pas très preneurs de toute façon.
Non.
Moi, j'ai fait les dernières choses que j'ai faites, c'est des workshops sur 2 semaines ou 3 semaines. À l'école et je me suis rendu compte que je tombais de la planète Mars, hein. C'est-à-dire que eux ils comprenaient rien à ce que je racontais, vraiment, mais strictement rien, hein. Et j'étais avec c'était un immense workshop d'une recherche du Fonds national suisse pour je sais pas quoi, je me souviens plus, à l'improvisation. Évidemment, Je suis arrivé en disant que pour moi, l'improvisation, ça n'existait pas. D'une part, déjà. Et puis après, on leur a montré des films. Buñuel, Dweskin, enfin, toute la smala, quoi. C'était pathétique, hein. Rien. En deuxième année de bachelor, jamais ils avaient entendu parler de ces gens, jamais ils avaient rien vu de ces gens, rien. Aucune connaissance de l'histoire. L'histoire, elle n'existe plus pour eux. Alors là, on parlait d'histoire avec grand H, hein. Mais alors l'histoire même, l'histoire de l'art, l'histoire. Bon, zéro. Aucune culture. Donc, bon, il y en a un que je croise encore de temps en temps, que j'aimais bien, que je trouvais très, très subtil, intelligent, vraiment très très bien. Il me dit, oui, je me souviens très bien. La première chose que vous avez dit, c'est que l'improvisation, ça n'existait pas. Et puis que tout ce cinéma commercial, ça ne vous intéressait pas. Donc... C'était tout ce dont il se souvenait, quand même. Après, on a fait deux fois deux semaines, hein, une année deux semaines, une année d'après encore deux semaines de travail. Mais bon, voilà, ça rentre peut-être différemment, j'en sais rien. Mais en tout cas, il n'y a pas la coupure, il n'y a aucune volonté de dialogue, hein, aucune.
Par exemple, Jérémy, dans son dernier film, qui convoque Yves Tanré, enfin, je trouve assez beau cette idée que le corps d'Yves Tanré qu'on voit depuis les années 80 dans tes films, aujourd'hui, là, il soit dans le film de Jérémy. Enfin, il y a quelque chose de... qui circule quand même.
Oui,
quoi.
Bien sûr. Mm. Oui, mais vous êtes une génération, vous n'êtes pas les bachelors dont je parle, hein, ou les masters. Ils ont 25, 26, 27 ans. Mm. Hein.
Nous, on est encore.
Et ce n'est pas notre milieu. Mm. C'est-à-dire que moi, je parle aussi des enfants. Nos enfants, c'est-à-dire qu'ils ont été drillés depuis l'âge de 5 ans, ou depuis qu'ils sont capables de comprendre quelque chose, ils ont été drillés à la sauce, à notre sauce, hein, quand même. Donc peut-être qu'ils sont aussi spéciaux, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, eux, là, ce n'était pas leur préoccupation, quoi. Leur préoccupation, c'était d'avoir un bachelor avec mention. Parce qu'aujourd'hui, tout
c'est
ça...
C'est quoi bachelor?
Bachelor, c'est 3 ans de...
Licence master, un truc comme ça.
Oui. Alors, c'est avant master. Licence, ils font d'abord un bachelor et ensuite un master.
Ah, oui.
Certains s'arrêtent au bachelor. Mais disons que c'est une demi-licence, je pense. Enfin, en tout cas en Suisse. Je ne sais pas, c'est un truc international. Les Anglais fonctionnent comme ça. Les Anglo-Saxons fonctionnent comme ça. Bachelor, master. Et après, ils peuvent faire une thèse encore. Mmh. Et puis, bon, les thèses sont aussi aujourd'hui réduites à 150 pages, ou j'en sais rien.
Puis 3 ans.
C'est juste 3 ans, c'est juste un truc supplémentaire. Mmh. Après, ils doivent faire une post-thèse, quoi. C'est quand même un changement, hein, dans la structure. Donc, ce qu'ils veulent, c'est un bachelor avec mention. Parce que s'ils n'ont pas de mention, il y a tellement de bachelors que c'est poubelle, hein, leurs études. Et puis après, ils espèrent encore un master avec mention aussi. Mais c'est tout, hein, c'est... le reste, ça n'a aucune importance. Aucune.
Les notes.
Les notes, les diplômes, quoi.
C'est ça, hein.
Parce que... ils pensent qu'ils sont très intelligents, très cultivés, très intelligents. Ils ont tout internet, ils ont tous des ordinateurs comme ça, avec toute la mémoire du monde dedans. Donc ils ont, eux, possèdent toute la mémoire du monde. Donc.
On n'a rien à leur apprendre.
Hein?
On n'a rien à leur apprendre. Hein?
Non, mais alors vraiment rien, quoi. Vraiment rien.
Ouais, mais c'est vrai, c'est... Moi, je voulais te poser une question sur la nudité dans tes films.
Ouais.
La nudité dans tes films. Comment elle est arrivée? Comment tu...
On était tous tout nus, hein. 68, c'est se dénuder. Et le poste. 68, c'est une libération, tu vois. Enfin, je te dis pas comment était mon enfance, hein. Mon enfance, elle était corsetée encore... je veux dire, au collège où j'allais, on n'avait pas le droit de mettre des pantalons parce que c'était extrêmement provocateur et vulgaire, quoi. Et comme ce n'était pas une école obligatoire, le collège, ça devenait, c'était déjà sortir de l'école obligatoire, prendre une voie de formation supérieure, ils avaient tous les droits. Ils avaient le droit de nous interdire ça, quoi.
Mais parce que dans tes films, t'as une confiance au corps, je trouve, très forte. Enfin, parce que tu travailles pas avec des grands acteurs, c'est pas leur jeu qui est à la base de ton cinéma, mais leur position dans le corps, des fois c'est très simple, hein, c'est vraiment juste on marche un peu voûté ou on se tient comme ça. Enfin, c'est. Et t'as une confiance que ça tient, quoi. Moi, j'ai l'impression que le corps est encore investi. Il est investi dans tes films.
Ah bah oui.
Et ben, c'est quelque
mais
chose
le
qui...
corps, il s'est investi.
Ouais, mais c'est quelque chose qui devient plus rare, ça aussi.
Alors ça, je sais pas. J'avoue, alors que là, tu me poses une question... Je me suis jamais posé cette question.
Hein, c'est vrai que la nudité dans tes films, elle paraît très naturelle. Enfin, il y a quelque chose de d'hyper juste dans le moment où elle apparaît. Enfin, vous allez voir dans Précis, il y a encore.
Oui, alors, c'est ça qui te fait penser à cette histoire de nudité. C'est la séquence de douche.
Non, là où il se déshabille, il se rhabille. Enfin, il y a dans tous les films, il y a cette question de nudité, mais qui vient complètement. Sans aucun enjeu érotique ou quoi que ce soit. Enfin, c'est...
Bah oui, parce que je ne sais pas, de toute façon, on dormait à poil. Hein. Puis quand tu te lèves, ben, tu es à poil, quoi. Je veux dire. Ouais.
Alors que dans le cinéma, souvent, la question de la nudité, c'est un enjeu.
Voilà, ça devient.
C'est un enjeu, tu vois. C'est,
on te fait travailler une attente ou un. Enfin, il y a tout un.
Ouais, mais c'est l'inscription dans le politique.
C'est ça.
Et dans l'époque.
C'est ça. Parce que
nous, la question de la nudité.
C'est entre... tous des garçons, non?
En plus, oui.
C'est tous des garçons qui sont nus, là, dont tu parles.
Il y a une fille, non, celle qui est.
Il y a une fille aussi?
Ouais.
Qui. Attends,
dans
laquelle?
Dans le lit. Enfin, là, dans.
Ah oui, mais on la voit pas. Elle est dans le lit, elle est un poil dans le lit. Mais enfin, elle est comme dans un film hollywoodien. Hein. Ouais. Elle est couchée sur le ventre et puis elle a que les épaules qui sortent. Hein. Donc, ça, c'est pas une référence. Hein.
Mais c'est intéressant parce que d'habitude, c'est des femmes qu'on voit nues en général.
Ouais, peut-être, je sais pas. Là c'est aussi, sûr. Je me suis. Ouais, ouais. Bon, je fais des films sur les. C'est un film sur que des hommes. Il y a que des hommes dans ce film, des garçons. C'est un film sur un travail de garçon. Hein. Il y a plus de filles dans le suivant. Mais c'est les filles dans le suivant, elles sont toujours aussi des personnages. Les copines du personnage central, en fait, principalement. Non, pas toutes, c'est pas vrai. Il y en a qui ont une autonomie.
Pourquoi plus les garçons?
Je sais pas.
Ça t'intéressait plus, hein? Il y avait un truc plus mystérieux pour toi?
Je sais pas, moi j'ai mis beaucoup de temps avant d'arriver à percevoir ce qu'était une fille, en fait. J'ai grandi avec des garçons, j'étais à l'école avec des garçons, systématiquement, quoi. Mm-hmm. Et puis après, bah, c'est devenu une espèce de couloir où les seules relations que j'arrivais à avoir, c'était, les relations, le dialogue, c'était avec des garçons, quoi, parce qu'on était un peu...
Ah, t'étais à l'école avec des garçons?
Complètement, oui. À partir du moment où je suis sortie de l'école, je ne sais pas comment vous appelez ça, élémentaire, primaire, et que je suis passée au collège, mais dans le canton de Vaud, passée au collège à 10 ans. Hein. À partir de 10 ans, j'avais à peu près plus que des garçons autour de moi. Ouais. En plus, en section classique. Donc c'était... Mmh. Et puis, c'était mon terrain, quoi. Je veux dire, moi, j'avais trois frères à la maison, hein. Trois frères et un père, plus âgés que moi, évidemment. Donc, je sais pas, j'ai appris à donner les coups de poing et puis à grimper dans les arbres, quoi. Donc, les filles, c'était vraiment un peu quelque chose de...
Mystérieux.
Ah, ouais, quelque chose que je trouvais bizarre, quoi, très, très étrange. Bon, je sais, évidemment, au cours des années...
T'as grandi comme un garçon peu, là.
Oui, j'ai grandi comme un garçon, absolument, Ah oui, complètement, alors.
C'est intéressant, ça.
Alors après, je sais pas, les filles qui se mettaient à pleurer à l'école, ça me semblait vraiment très étrange. Hein. Mais très, très étrange, quoi. par chance, on change, on n'est pas complètement figé, quoi.
C'est ça qui est beau dans la vie.
Hein?
C'est ça qui est beau dans la vie.
Oui, 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 en fait, on change tout le temps. Des fois, j'ai l'impression qu'on fait toujours la même chose, mais en même temps, on change aussi tout le temps.
On est en train d'arriver à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a une dernière parole, une dernière question?
Je voulais poser la question. Un autre été, du coup, quand il était projeté dans les années 80, et là, par rapport à la projection qui s'est passée hier, est-ce que tu sens que le public, c'est différent, la réception, c'est différent? Est-ce que tu pourrais...
C'est beaucoup plus apaisé. Après, il peut y avoir des critiques, hein. Je veux dire, même moi, en voyant le film, maintenant, je me dis, oh, ça, c'était pas très réussi, quand même. Il y a des moments de faiblesse aussi, hein, dans le film, par rapport à tout ce qu'on a discuté formellement tout à l'heure, quoi. Mais la réception, elle est beaucoup, beaucoup plus apaisée. On discute des choses qu'il y a dans le film, on discute pas du fait que c'est un scandale de faire un film comme ça, quoi. Et ça, je l'ai constaté, ça, c'était mon premier constat, ça a été il y a 2 ans peut-être, hein, où on a fait une projection à la médiathèque du Fonds municipal d'art contemporain à Genève, qui sont une partie des gens qui me soutiennent, hein, financièrement, et il y avait justement tous les enfants qui étaient là. C'était après qu'ils aient eu cet étillement dû au scénario auquel ils auraient dû participer, quoi. Ils étaient tous là et ils étaient scotchés.
C'est beau.
Très beau, très très beau. Et là, je me suis dit, ah ouais, alors maintenant c'est un peu apaisé, toutes ces histoires. Et on peut revoir ce film. Et tous, ils disaient, ça nous parle maintenant. Ça nous parle. C'est un film pour nous.
Mais ça donne de l'espoir, alors.
Oui, oui,
des choses comme ça.
Complètement.
Et puis c'est beau d'entendre que des jeunes disent d'un film fait dans les années 80 nous parle, quoi. Parce que finalement, si on fait des films, c'est pour que ça nous parle.
Oui, puis il y a une forme d'authenticité en tous les cas qui fait que ça traverse le temps, puisque ce film-là, tu l'as fait avec, avec authenticité complètement.
Bien sûr. Mais il pourrait y avoir, je ne sais pas, quelque chose qui vieillit. Ouais.
Eh ben non.
C'est tellement radical que ça vieillit pas, quoi.
Ouais. Ça, t'en sais jamais rien, de toute façon.
Oui, mais parce que c'est tellement simple dans les purs que finalement, c'est les choses les plus simples qui vieillissent le moins.
Ouais. Donc voilà, c'était une émission en quête de cinéma avec Véronique Goël. Elle projette ses films ce soir. Et vous pouvez écouter l'émission sur dive.tv avec plein de textes et d'entretiens et de documents sur Véronique. Voilà. Bonne continuation à tout le monde. Thank you.
Thank you.